Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Dans l'émission peut contenir des infos, aujourd'hui, nous allons parler non pas du fruit, mais de l'activité de la pêche.
Ah!
Aha!
Aha! Ça va être intéressant.
Oui.
Parce qu'on va avoir en entrevue avec nous le gérant de l'administration portuaire de Chéticamp en Nouvelle-Écosse, Monsieur Angus Lefort.
Lui-même.
Oui.
Alors lui, il envoie des bateaux.
Le grand Angus sera avec nous.
Lui voit les bateaux, il voit les pêcheurs partir.
Il voit arriver.
Mm-hmm. Il sait ce que c'est la pêche.
Oui.
Mais attention, pas la pêche avec la canne et tout ça, là.
Non. Avec de la bouette qu'on met dans des casiers et qu'on met dans l'eau.
La pêche au homard et au crabe.
C'est ça.
T'as entendu comment j'allais le prononcer?
Au crabe.
Au crabe.
Oui.
C'est comme ça que j'allais le prononcer.
Probablement plus crabe.
OK. Alors, on va parler de ça un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord,
on doit vous rappeler que cette année, c'est les 25e rendez-vous de la
francophonie.
Merci, Simon.
Ça fait plaisir.
Les porte-parole cette année, Alexis Normand.
Oui.
Hein, l'auteur, compositrice, interprète de la Saskatchewan et aussi Eddie King.
OK.
Il y a des concours, il y a plein d'affaires. On vous invite à vous rendre sur rvf.ca pour en connaître un peu plus sur les activités qu'il y a cette année dans les rendez-vous de la francophonie.
Puis il y a des concours, puis des trucs du genre.
Oh, oui, il y a un paquet d'affaires.
Ouais. Surveillez aussi le calendrier, là, si des fois il y a des affaires qui se passent par chez vous, là.
OK, je pensais que tu voulais juste que je regarde un calendrier.
Non, pas toi, là.
Non, mais un calendrier, un calendrier.
Ouais, un calendrier, ça fait comme un peu...
Tu dis ça.
J'en ai un chez nous.
Hein?
J'en ai un accroché sur le mur chez nous.
Moi aussi. Parce que mon gentil garagiste me donne toujours un calendrier à chaque année.
Oh ben, son fin de même, hein?
Ah, son fin de même. Oui, c'est du bon monde de même.
Ça fait qu'on a beau avoir un agenda dans le fond de notre poche sur notre téléphone cellulaire, mais quand on a un rendez-vous important, quelque chose, on écrit dans le coin du calendrier, ça fait un petit peu old fashion, excusez l'expression, mais ça marche encore.
Mais ça fonctionne encore. Puis je sais pas pourquoi, mais de regarder une date sur un calendrier, c'est pas la même chose que regarder sur ton téléphone.
Ben, il y a une expérience, hein.
Ben, c'est ça.
C'est un peu comme d'écouter de la musique. Ben plus le fun de prendre un disque, de l'essuyer un petit peu,
mm-hmm.
de le mettre sur une table tournante.
Oui.
Ça,
c'est poser l'aiguille.
Oui, c'est plus classe un peu que de juste presser.
T'entends les...
C'est que ça prend pour être riche d'après toi?
De l'argent.
Commencer des calendriers de garage?
Ben peut-être.
Je sais pas. Y en a qui vont dire un paquet de diplômes. Pour avoir des jobs payantes, il y en a qui vont dire une intelligence au-delà de la moyenne, mais selon une étude qui est parue récemment, ça prendrait surtout de la chance.
De la chance.
Ouais, une bonne dose de chance pour toucher un gros salaire beaucoup plus que l'intelligence. Ouais.
Ah oui, hein?
Ouais, c'est des chercheurs qui ont passé en revue les habiletés cognitives qu'on a mesurées chez près de l'échantillonnage. Il est impressionnant. 59 400 hommes suédois.
Wow.
Et on a mesuré leur capacité cognitive pendant qu'ils faisaient leur service militaire.
Ah, OK.
Hein? Mm-hmm. Oh, oh. Mm-hmm. Tu sais qu'en Suède, ils sont obligés de faire le service militaire. Oui. Tu fais pas ça toute ta vie, mais quand tu passes là, ils font faire des tests de quotient intellectuel, des trucs du genre. On dit, lui, c'est un chaudron ou c'est plus comme une ampoule, mettons. Alors, c'est ça. Et par la suite, on a comparé cette intelligence qu'on avait mesuré pendant leur service militaire, avec les revenus qu'ils avaient engrangés entre l'âge de 35 et 45 ans. Là, vous comprenez qu'ils font peut-être le service militaire à 18, 19, 20 ans, je sais pas trop. Puis, rendus à 35, 45, sont pas mal dans le pic de leur carrière.
Mm-hmm.
On va voir s'il y a une relation. Est-ce que le QI et tout ça matche avec le salaire? Alors, quelle est la conclusion? Les gens qui gagnent les salaires les plus importants sont pas nécessairement les plus intelligents de la gang. Non?
Mm.
l'étude le démontre. On a analysé les données de ces presque 60 000 personnes et les scientifiques ont déterminé que les revenus semblaient suivre, oui, une courbe ascendante,
okay,
qui correspond effectivement au niveau d'intelligence, mais à un moment donné, quand tu arrives aux alentours de 78 000 piastres à peu près, donc 600 000 couronnes suédoises par année, c'est fini, là. Ça a plus rapport avec l'intelligence.
Okay.
Là, c'est de la chance, là.
C'est de la chance.
Si t'es rendu à 80, 90 000, 100 000 piastres, ça a plus à voir avec
ça. T'as eu la chance d'une personne est partie puis t'as réussi à avoir le poste.
Entre autres choses. Mais, même que, et ça, c'est assez surprenant, ceux qui font partie de ce 1% des privilégiés qui gagnent de très, très bons salaires,
oui,
ont même des fois des capacités cognitives qui sont un petit peu inférieur à ceux qui gagnent moins qu'eux.
Ah ouais.
Ben,
c'est qui tu connais finalement.
Ben, je donnerai pas de nom, mais mettons un ancien président là. Tu mettons un peu trop bronzé.
Oui, 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 oui. Oui.
Mettons,
oui,
mettons qu'il a l'air d'un milliardaire, mais que entre les deux oreilles.
Il a de l'air de youpi.
Il a l'air un peu plus d'une mascotte jaune orange, effectivement.
Okay. Oui.
Bon.
Alors, oui, oui, oui.
Alors, tu vois, ça, c'est la preuve un petit peu qu'il y a peut-être de la famille qui est passée avant, lui, je sais pas.
Oui.
Ou il a peut-être eu de la chance de faire des achats à un moment donné qui lui ont rapporté des trucs, oui, du genre. Alors, souvent, on a tendance à expliquer les écarts de salaire entre ceux qui sont en bas de la pyramide puis ceux qui sont au sommet par, justement, des meilleures aptitudes ou des meilleures facultés intellectuelles.
C'est ça qu'on pense.
Mais c'est pas toujours vrai. Ouais. C'est ça qu'on a démontré. Ce sont les sociologues de l'université de... J'espère que je vais le dire correctement, de Linköping.
Okay.
Linköping, en Suède. Alors, eux autres, ils disent, non, y a, ça a comme pas rapport, là, oui, OK, jusqu'à 78 000 piastres, là. Mais au-delà de ça, là, c'est purement de la chance. Okay. Bref, avoir un énorme succès professionnel, c'est souvent beaucoup plus lié au fait d'avoir, par exemple, de bonnes ressources familiales.
Ah, hein? OK, qui qu'on connaît.
Si grand poupa ou encore mon oncle est passé avant toi puis il t'ouvre les portes, ça va plus vite. Si t'as beaucoup de chance aussi, je vais savoir peut-être que, comme je le disais tantôt, peut-être que t'as fait des bons achats, t'as dit je vais acheter des actions puis...
Ben oui, c'est ça.
T'as coup, hein, c'est
une petite compagnie qu'on connaît pas puis boum!
C'est ça. Alors, l'étude a été publiée à la fin du mois de janvier dernier dans la revue spécialisée European Sociological Review, qui s'intéresse justement aux questions sociologiques. Et vous le saurez maintenant que,
oui,
passer 78-80 000 piastres au-dessus de ça, si votre boss vous regarde avec un petit air suffisant, qu'il est effectivement suffisant, il est peut-être pas plus intelligent que vous, finalement.
Être au bon endroit au bon moment,
yes,
c'est souvent ça.
C'est ça.
Moi, je vais te parler de la belle grande ville de New York.
The Big Apple.
The Big Apple qui a révélé cette semaine les meilleurs appels qu'elle a reçus au 311. Pas au 911, là. C'est le 311. Qui a été lancé en mars 2003. C'est devenu une ressource absolument indispensable pour les New Yorkais. Et tu vas voir que les questions qu'on pose à cette ligne-là, effectivement, c'est assez indispensable.
Le 311, ça, c'est l'endroit, justement, comme tu disais, où on va poser des questions sur des services municipaux.
C'est ça. Tu veux te plaindre de bruit? Les vidanges n'ont pas été ramassées, c'est sale.
OK.
Je peux-tu stationner ici?
Autant de clôture, des trucs.
C'est
genre
ça. OK. Ils ont reçu plus de 525 millions d'appels
non.
depuis 2003.
OK, ouais, depuis 2003.
Ouais, okay. Mais quand même.
Quand même, c'est.
525 millions. Et pour célébrer ses 20 ans, le service a diffusé une étude résumant en 9 pages les principales statistiques de ce numéro d'appel non urgent, qui est très distinctif du 911, on s'entend. C'est des situations qui sont, bien entendu, pas bien, bien graves. Les demandes les plus nombreuses concernent le stationnement.
Oui.
C'est à New York, tu peux pas te stationner où ce que tu veux. Légal ou illégal, le bruit, des plaintes à propos du chauffage, des choses comme ça.
Ça, c'est assez conventionnel.
C'est assez conventionnel, mais ils ont aussi ressorti les demandes les plus insolites.
François,
et, c'est là-dessus que j'ai accroché, hein.
François, s'il y en a des appels niaiseux au 911,
oui,
qui est en théorie,
oui,
un service,
oui,
d'urgence,
uh-huh,
je t'ai emballé en dehors de la maison chez nous. Et c'est pas le 911.
Ouais, mais c'est
là.
Ça. Good luck.
Alors, j'imagine que le 311,
oui,
ils doivent en avoir des capables.
pouvez-vous me dire comment faire bouillir un poulet?
Ah oui, vraiment. Il y a des gens qui appellent pour ça. Oui. Eh ben, OK.
Il y a quelqu'un aussi qui a appelé pour dire qu'un chat était en train de terroriser quelqu'un à travers une porte moustiquaire.
C'était peut-être la femme chatte, remarque.
C'est ça.
C'est pas.
Ah. Il y a quelqu'un qui a même osé appeler pour demander combien de temps dure un match de baseball?
Non.
Non, je veux dire, c'est important. Finalement, là, le 3-1, c'est un gros Google. Est-ce que je peux mettre mon chien comme dépendant sur mes impôts? Ben, non, mais c'est une bonne question.
Ben, une bonne question.
Il coûte cher, le chien, là, à manger. Okay. Puis bon, en nonos, puis toutes sortes d'affaires.
J'imagine la face, par exemple, de la fille du gars qui est à la ligne à l'autre bout, puis qui a dit,
je peux pas imaginer. Oui, c'est ça. Vraiment? C'est vraiment votre question, ça. Écoute bien celle-là. Est-ce qu'il y a une loi qui limite les fois que je peux flusher ma toilette?
Mmh. Ben, remarque, écoute.
Il devrait peut-être en avoir, là,
peut-être,
mais...
Peut-être, c'est ça que j'allais dire. Peut-être qu'il devrait y avoir une législation, effectivement, pour épargner économiser l'eau potable, mais...
Mais comment tu comptes ça, là?
Ouais.
Il y a quelqu'un qui avait appelé aussi pour dire qu'il y avait un fantôme dans sa fenêtre.
Ah!
Hein? Quand ça, même. Ben oui, je suis arrivé...
Mais ça, faut pas que t'appelles au 3-1, t'appelles Ghostbuster.
Non, ben c'est ça.
Surtout quand t'es à New York.
On sait pas quelle heure qu'il a appelé non plus. En tout cas, et dans quel état. J'aimerais porter plainte contre mon frigo qui fait trop de bruit.
Il y a du monde qui font exprès. Là,
okay, ils vont pas aller l'arrêter quand même, ton frigo, là. Pouvez-vous vérifier si mon chum est marié? Il y a une chèvre d'attachée dans l'escalier de mon building. C'est n'importe quoi. Pourriez-vous me transférer à un expert des ovnis?
Oh!
Et la meilleure, celle que j'ai gardée pour la fin.
Oui.
Ça, celle-là. Est-ce possible d'arroser les arbres avec un liquide pour empêcher que les feuilles tombent?
Aïe, 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 aïe,
aïe. Je sais pas trop quoi vous répondre, là, mais non.
Non? Ça vous tente pas des fois de téléphoner peut-être à, je sais pas moi, une pépinière ou un botaniste
juste,
ou je sais pas trop.
C'est juste quoi. Quelqu'un qui était tanné de ramasser des feuilles. Ben mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça, nature.
Alors, prenez des notes, là, les gens, là, si vous avez des questions de ce genre-là. Oui. N'appelez pas au 3-1.
Non, mais appelez-nous, par exemple. Nous autres, on va répondre à vos questions.
On va répondre à vos questions.
Ça va nous faire plaisir.
Pas dit que les réponses vont être intelligentes, par exemple.
Non. Mais on va s'essayer, par contre.
On peut s'essayer quand même. On s'arrête pour une courte pause. On revient dans un instant. Nous recevrons en entrevue...
Monsieur Angus Lefort.
Oui.
Cette émission peut contenir des infos.
François, la saison de la pêche au crabe... Et au homard, ça s'en vient, là.
Ça s'en vient à grands pas pour notre plus grand plaisir d'estomac.
Ton plus grand plaisir. Moi, j'aime ça.
Oui, moi, j'adore
ça. Mais toi, t'aimes pas ça. Je pense que t'en fais une passion, pratiquement.
Un peu, oui.
On a donc voulu savoir, alors que ça s'en vient très prochainement, on a voulu savoir un petit peu plus comment ça se passe, la pêche au homard, la pêche au crabe.
C'est quoi une saison, là? Je sais pas, là, mais on avait comme besoin d'aller un petit peu plus loin que juste dire, ben, c'est la saison de la pêche au homard.
Et on a décidé d'inviter...
Oui, une sommité en la matière. C'est... Monsieur Angus Lefort.
Il est le gérant de l'administration portuaire de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. C'est comme ça qu'on le dit, Angus?
Oui, c'est ça.
Angus Lefort, comment vas-tu?
Je vois bien, puis je connais bien le goût de homard et de crabe à François, je sais qu'il aime ça beaucoup, donc j'en amène souvent.
Oui, c'est ça.
Hey Angus, une question comme ça en passant, moi j'ai l'impression que le beurre à l'ail a été inventé pour le homard, ça se peut-tu ou?
Le quoi?
Le beurre à l'ail. Moi, j'ai l'impression quand je mange du homard...
Le beurre à l'ail.
Ouais, c'est
ça t'en prend, là?
Oui, mais ça m'en prend, non?
Oui. Oui, beurre à l'ail, c'est pour cacher le goût du homard qui est pas frais.
Ah, ok. Frais, ok, c'est ça.
Ça sort de la mer, ça va d'un pot, avec du sel, puis okay. L'eau puis du sel, puis c'est, on n'a pas besoin de beurre, ou de, on n'a pas besoin de cacher.
Ok. Angus, ça va débuter quand cette année, la saison de la pêche?
Ben, ça dépend de toutes les régions, bien sûr. À la Gaspésie, ça se peut que c'est déjà commencé, je suis pas certain, mais nous autres, on attend que le golfe du Saint-Laurent se débarrasse de tous les glaces. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on s'attend que ça va commencer beaucoup plus tôt. On peut pas commencer la pêche au crabe ici avant que tous les crabiers du Nouveau-Brunswick, du Nord-Nouveau-Brunswick, le Caraquet, Chipagan, la Mecque, les autres sont pris dans la glace, le havre est tout gelé, donc ils sont en train de, à tous les ans, puis tout de suite, ils sont en train de casser la glace avec des, ils appellent ça des grenouilles et des gros icebreakers et ça, ils sont en train de casser la glace pour que les pêcheurs peuvent sortir du havre et s'en venir par ici pêcher. Ça fait qu'on s'attend, probablement, ça donne pas mal tout le temps autour de Pâques, entre le 7 et le 15 d'avril, donc ça va commencer bien vite, là, c'est dans moins qu'un mois.
Puis ça va durer combien de temps, la saison de la pêche?
Il y a deux pêches de crabes. Il y a la pêche hauturière et la pêche côtier. La pêche côtier, c'est dans l'été. Et tout de suite, ça va être la pêche haute mer qui est 12 000 ou 20 km au large de la côte.
Okay.
Et ça va pas par du temps, ça va par des quotas. Donc, lorsqu'ils ont pêché leur quota, ils ont fini. D'habitude, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Mais la plupart des plus gros bateaux peuvent pêcher. S'il y a de l'espèce en tout dans la mer, le problème, c'est que c'est pas juste le pêcher, c'est faut qu'il s'aille transformer, faut qu'il s'aille débarquer. Donc, il y a beaucoup trop de crabes qui rentrent en même temps les premières semaines. Ils doivent limiter les bateaux à deux voyages par semaine ou tant de livres par bateau pour être certain que le crabe peut être débarqué du bateau et soit transformé ici dans une usine qu'on a ou envoyé au Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans des usines pour transformer là-bas. Il faut le garder en vie, donc il peut pas rester deux ou trois jours dans le bateau en attendant que quelqu'un peut faire le débarquement. Ils font ça aussitôt qu'ils peuvent arriver. Ils mettent ça sur la glace et ils envoient ça ailleurs.
OK. T'as parlé de quotas, justement. C'est quoi le quota que les pêcheurs peuvent prendre par jour?
Pour la saison, c'est des gros bateaux, là, la pêche hauturière. C'est des bateaux de 3 et 4 millions. Ils ont 150 casiers. Donc, je pense que cette année, ils vont avoir passé 300 000 livres par permis. Donc, ils peuvent rentrer jusqu'à 75 000 livres dans une journée si le quai peut les prendre. C'est les premières semaines, ils sont limités. Après ça, parce qu'il y en a moins là, après deux semaines, il y a moins de crabes qui rentrent. Là, ils les limitent pas, puis ils peuvent rentrer avec des 30 et 40 et 50 000 livres par jour. Il y a aussi des pêcheurs mid-shore qui appellent. C'est la même pêche comme les pêcheurs hauturiers, mais ils ont moins de casiers. Ils ont comme 75 cases au lieu de 150 et leur quota. Ça va par la case, le cassier, tu veux, ou la trappe qu'on appelle la trappe à crabe. Il donne un quota de 25 ou 3000 livres par case. Si ça en a 150, puis c'est 2000, tu vois, ça fait 300 000 livres.
Angus, toi, t'es gérant de l'administration portuaire à Chétiscan, en Nouvelle-Écosse. Tu les vois, les bateaux, là, tu les vois partir, tu les vois arriver. Comment ça se passe comme pêche, là? Si tu des grosses affaires, mettons, un équipage sur un bateau, par exemple, c'est 3-4 gars, ça se compte en dizaines. Je sais pas comment ça fonctionne, cette pêche-là.
Oui, ben, la pêche hauturière, c'est des gros bateaux, comme j'ai dit, là. Ils sont juste partis pour une journée ou 24 heures, parce que, comme je dis, ils vont pas loin, ils vont juste à 20 km, 25 km au large. L'équipage est 4-5, je dirais 4-5 par bateau. Ça prend un ingénieur pour les engins et pour ces gros bateaux-là, ils ont des tanks d'eau dans le bateau pour garder le crabe plus en vie puis plus vivant. Donc, je pense qu'ils ont 25 cents la livre de plus que si c'est juste garder sur la glace. Puis oui, c'est très achalandé. Il n'y a pas juste les bateaux qui arrivent au quai. Il y a des gros camions qui viennent avec la glace pour les glacer. Il y en a d'autres camions qui viennent avec l'appât pour y amener de l'appât. Il y en a d'autres camions qui arrivent pour vraiment prendre le crabe. et il l'a amené ailleurs. Donc, c'est très achalandé sur le quai. Dans trois semaines, t'as de la difficulté à passer avec un char. Faut se faire certain de les... Nous autres, on se fait certain qu'il y a toujours un chemin parce qu'il peut y avoir un incident, il peut y avoir un feu, il peut y avoir une mortalité ou quelque chose où l'ambulance doit se rendre. C'est vrai qu'on est constamment à faire certain que le chemin est ouvert pour se rendre jusqu'au quai.
Est-ce que les saisons sont meilleures dernièrement?
Le crabe, ils ont eu une augmentation de 10% sur le quota de haute mer.
Okay.
On comprend pas pourquoi, parce que ce qui arrive, c'est que la pêche est en même temps comme les baleines noires qui arrivent. Ça fait que ils essayent toujours de commencer la pêche aussitôt que possible et que les pêcheurs soient débarrassés aussitôt que possible avant que ces baleines noires arrivent. Et là, d'un coup, ils donnent 10%. 10% d'un quota, c'est beaucoup, parce que je sais pas quoi, c'est des millions de livres, c'est que, okay. Peut-être que tu gardes tout le groupe ensemble. Là. Mais oui, c'est le prix qui inquiète beaucoup les pêcheurs. L'année passée, ça avait commencé à 8 pièces la livre, et là, tout d'un coup, ça a tombé à 4 pièces la livre parce que le marché pouvait pas le prendre, il pouvait pas se débarrasser. Là, ça a l'air que cette année, il y a encore du crabe gelé dans les gros freezers aux États-Unis et ça, donc... Puis je pense que la Russie aussi vend leur crabe au Japon puis en Chine, donc la Chine vient moins. D'habitude, la Chine achetait beaucoup de crabe du Canada et des maritimes, mais là, tout de suite, je pense qu'ils ont un meilleur prix de la Russie, non?
OK. Donc, ça risque d'être une année un peu particulière, un peu singulière cette année, étant donné tout le contexte dans lequel on vit, j'imagine, aussi, là.
Oui, ben c'est bon pour moi puis François parce qu'on aura du crabe moins cher, mais c'est pas pour c'est les pêcheurs où ce que ils essayent à payer leurs factures et tout monte, hein, les salaires montent, le diesel, l'essence monte, tous les prix montent, donc ça fait pas du bien lorsque le prix descend. C'est un prix qui fluctue beaucoup. Des fois, ça commence à 4 pièces la livre et rendu à la fin de l'année, ils donnent un boni d'une pièce la livre de plus parce qu'ils ont finalement pu avoir plus pour l'espèce qu'ils ont.
Okay.
Puis la pêche au mort, eux autres, ils commencent le 6 ou le 7 de mai. Donc, c'est presque en même temps comme le crabe. Ça fait beaucoup d'achalandage sur le quai parce que les pêcheurs, une semaine avant les crasses au mort, ils mettent tout ça sur le quai, tout prêt pour partir la journée même, donc ça prend beaucoup de place. Et, on fait du traffic control pas mal pour les deux premières semaines.
Et on reçoit Angus, évidemment, vous l'entendez depuis tout à l'heure, on le tutoie gros comme ça, mais c'est parce qu'on le connaît, hein. Il est, gérant de l'administration portuaire à Chétiquan, mais il a aussi été directeur général pendant plusieurs années de la radio à Chétiquan, CKJM FM, pendant plusieurs années. Angus, juste quelques mots là-dessus, ça serait quoi, disons, ton meilleur souvenir de ces années que tu as passées à la radio, puis à côtoyer des gars comme François puis moi, mettons.
On ne sait pas si c'est des bons souvenirs.
J'ai été choyé de faire partie de l'équipe de l'Arc du Canada pour plusieurs années. Du début en 1992, quand on a apporté le projet. Et j'ai été sur plusieurs comités, des sous-comités et sur le CA. Et j'ai rencontré beaucoup de gens sympathiques comme toi et François et beaucoup d'autres.
De quoi?
Donc ça aussi, puis j'en ai profité pour voyager beaucoup avec la radio. J'étais en Écosse. Il y a une association de radio communautaire dans le nord de l'Écosse. J'ai visité cette partie-là. J'étais en Italie. J'étais quoi d'autre? Amman, en Jordanie, j'étais en France, et ça fait que ça m'a permis beaucoup de voyager et visiter et voir beaucoup de pays.
Angus, si tu regardes un peu le temps que tu as passé à la radio et dans le mouvement de la radio communautaire, de quoi t'es le plus fier?
Moi, je dirais de faire une radio qui est très populaire, qui est très acceptée et très soutenue par la communauté. J'ai été 30 ans dans le domaine des radios à travers le Canada et j'ai vu d'autres radios et les misères qu'ils ont. Il y a eu des succès, bien sûr. Mm-hmm. Et nous autres, on était un succès parce que les gens ont embarqué tout de suite. Comme là, trois semaines passées, la radio a fait un radioton. Ils ont ramassé 14 000 piastres. C'est d'un petit village de 2 500 personnes. Et on n'est pas les seuls qui font du prélèvement de fonds. Il y avait 10 000 piastres pour l'église trois semaines avant ça. Et ça finit plus. Mais on est aussi important que toutes les autres associations et infrastructures dans la communauté. Ça, j'en suis très fier. Surtout que c'est une association en français. C'était pas évident quand on a commencé en 90, là, mais de plus en plus, on a mis un visage francophone plus dans la communauté qu'avant.
Ben bravo, parce que c'est un beau succès, un bel exemple de succès à la radio CKJM à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse. Je pense que ça peut inspirer d'autres stations de radio un peu partout à travers le Canada. On l'a pas reçu nécessairement pour parler que de ça, là, hein, vous l'avez entendu, mais il fallait faire une petite parenthèse sur son passage. T'as été là combien de temps, là? Trois décennies à peu près?
C'est moi qui a parti le projet en 90 et je m'ai retiré au mois d'août l'année passée. Ça fait que j'ai mis 28 ans, je pense, 27 ans.
Wow, super. Merci beaucoup. Merci Angus Lefort, on lui a parlé de la saison de crabes, enfin la pêche aux crabes et aux homards qui s'en vient très très prochainement. Donc il y a en partie peut-être des produits de Chétiquan, Nouvelle-Écosse qui vont atterrir, je sais pas, dans votre supermarché et tout ça. Alors il est gérant de l'administration portuaire à Chétiquan, Nouvelle-Écosse. Angus Lefort, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
On parle beaucoup ces jours-ci, il me semble que c'est pas constant, mais c'est fréquent à tout le moins dans l'actualité, de pénurie d'enseignants un petit peu partout à travers le monde. Et dans la francophonie, il semble que c'est un phénomène qui est suffisamment préoccupant pour que des gens aient décidé de s'y pencher.
Et il y a le dernier numéro d'éducation et francophonie qui est la revue scientifique de l'Association canadienne d'éducation de langue française qui traite justement de la pénurie d'enseignants plutôt dans la francophonie canadienne, mais aussi, Simon, à travers le monde.
Ouais, c'est un numéro en particulier qui a été préparé sous la direction de Madame Geneviève Sirois. Elle est professeure en administration scolaire à l'Université TELUC et elle a compté sur la participation, évidemment, pour ça. Ça se prépare pas tout seul, on s'entend. De Martial Dembélé et Adriana Morales-Perlaza, qui sont professeurs titulaires et professeurs agrégés au département d'administration et fondements de l'éducation à l'Université de Montréal.
Si vous êtes parent ou grand-parent et que vous êtes préoccupé par l'éducation de vos enfants et de vos petits-enfants, ça risque d'être très intéressant comme entrevue.
Oui, et on l'a avec nous au bout du fil. C'est elle qui a justement coordonné, si je peux dire, la préparation de ce numéro-là. Madame Geneviève Sirois est au bout du fil. Bonjour, Madame Sirois.
Bonjour.
Madame Sirois, d'abord d'entrée de jeu, dites-nous pourquoi avoir décidé de consacrer un numéro complet d'une revue scientifique comme celle-là à la pénurie de personnel enseignant? Est-ce que c'est quelque chose qui est à ce point préoccupant actuellement?
Je vous dirais, oui, c'est très, très préoccupant actuellement, autant la situation au Québec, mais également là, dans la francophonie hors Québec, donc dans la francophonie canadienne. Et vous l'avez mentionné, là, c'est vraiment une préoccupation, je dirais, mondiale. Au-delà de la préoccupation, il faut savoir que la recherche scientifique sur les pénuries d'enseignants en tant que tel est peu développée au Canada. On a de la recherche qui s'est beaucoup faite sur certaines dimensions particulières qui peuvent être indirectement liées à la pénurie, par exemple l'insertion professionnelle des enseignants, mais de vraiment s'intéresser à la pénurie de manière là multidimensionnelle, je dirais, ça se fait encore très peu au Canada. Donc, on a vraiment voulu explorer la question en profondeur et solliciter des articles auprès de plusieurs collègues avec différents champs d'expertise pour vraiment alimenter la base de données, je dirais, sur la pénurie de personnel enseignant.
Est-ce que c'est un phénomène qui est récent, la pénurie d'enseignants, ou c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis un bon moment, là?
Je dirais oui et non. C'est vraiment un phénomène par vague. Donc, des vagues de pénurie d'enseignants dans l'histoire des systèmes éducatifs, on en a vécu plusieurs. Par exemple, au Québec, dès les années 1800, là, lorsqu'on a commencé à augmenter le nombre d'écoles, puis améliorer la scolarisation des enfants, bien, nécessairement, on augmentait les besoins d'enseignants. Il y avait des situations de pénurie qui pouvaient être vécues. Donc, non, c'est pas nouveau. En même temps, c'est probablement une des vagues les plus intenses qu'on connaît actuellement. À savoir, quand elle a commencé, bon, ce n'est pas coupé dans le temps au couteau, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu vraiment une augmentation démographique. Donc, le nombre d'élèves a augmenté dans les dernières années. Ce qui est une des causes là du phénomène très récent. Ensuite, on peut penser à la pandémie qui a accentué certains départs dans la profession enseignante. Également, les nombreux départs à la retraite qui ont débuté et qui vont se poursuivre dans les années à venir. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui viennent influencer sur la pénurie d'enseignants, en venant jouer finalement sur la demande d'enseignants. Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une diminution ou une stagnation, en tout cas, du nombre d'inscriptions et de finissants dans les programmes de formation des enseignants. Donc, il y a moins d'enseignants qualifiés qui sont disponibles également pour combler les postes. C'est ce qui amène à la situation qu'on vit actuellement.
Vous avez énoncé, Mme Sirois, quelques raisons. Le fait, par exemple, qu'il y ait de plus en plus d'enfants, la fameuse pandémie qui nous est tombée dessus, ça peut expliquer en partie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vit une pénurie semblable d'enseignants? C'est plus un métier qui est aussi attractif? J'essaie de comprendre un petit peu. Il me semble qu'à une certaine époque, moi, quand j'étais ticu comme ça, puis qu'on allait à l'école, être une enseignante, c'était comme un modèle. Et puis, les jeunes femmes et les jeunes hommes, ils avaient de l'intérêt envers cette profession-là. Qu'est-ce qui explique cette pénurie soudaine d'enseignants, ou en fait cette résurgence d'un problème? Et est-ce qu'on a des solutions à court et à moyen terme pour régler ce problème-là? Ou?
Bien, en fait, il faut voir le problème d'attractivité de la profession. Donc, comme vous le dites, effectivement, de moins en moins de jeunes ont envie de s'en aller vers l'enseignement, je dirais. Pourquoi? Bien, plusieurs facteurs, c'est sûr. Il y a des conditions de travail. Les conditions de travail, là, on peut parler des conditions salariales, etc., mais aussi le travail d'un enseignant même s'est alourdi. Hein? Les classes se sont alourdies. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, des handicaps, qui vont être intégrés en classe régulière avec un enseignant qui n'est pas formé nécessairement pour faire face à ce type de problématique. C'est sûr que le travail de l'enseignant s'est alourdi, je dirais, peut-être dans les deux dernières décennies. L'attractivité de la profession, elle est moins là. Le marché du travail change. C'est un phénomène, la perte d'attractivité, qui est observée, je dirais, à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est celui de la rétention. Une fois qu'on a des enseignants dans nos écoles, il faut aussi être capable de les garder. Il faut éviter qu'ils partent en congé prolongé, qu'ils décident de changer de profession. Donc, on veut les garder avec nous. Et on sait que, notamment pour les jeunes enseignants, il y en a beaucoup, selon les statistiques, il y en a qui parlent de 15%, il y en a d'autres qui parlent de 20%, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 40% des jeunes enseignants là, qui quitteraient la profession dans leurs 5 premières années d'exercice. Donc, ça, c'est des personnes qu'on a formées pendant 3-4 ans qui arrivent sur le marché du travail et qui finalement vont quitter. Donc, ils devront être remplacés. Là. Donc, ça aussi, ça contribue là, à alimenter la pénurie. Ensuite, c'est sûr, il y a des politiques éducatives qu'on met en place qui va aussi avoir un impact. Au Québec, par exemple, on a créé les maternelles 4 ans. Mais si on crée des classes de maternelles 4 ans, nécessairement, il faut un enseignant pour mettre dedans. Si on diminue les ratios dans une classe, il faut plus d'enseignants pour scolariser le même nombre d'élèves. Donc, c'est très complexe, le phénomène de la pénurie d'enseignants, comme je disais. Au départ, c'est pour ça qu'on a voulu l'étudier vraiment de manière multidimensionnelle. Au niveau des solutions, je dirais dans l'urgence, là, la principale solution qu'on a vu émerger, malheureusement, c'est de recruter des enseignants non légalement qualifiés, principalement pour combler les besoins. Donc, au début de l'année, habituellement, les gens vont pouvoir réussir à combler la majorité des postes, mais au jour 1 de la rentrée scolaire, malheureusement, il n'y a plus d'enseignants qui sont disponibles pour prendre des contrats temps partiel, donc, ou de faire du remplacement. Donc, si une enseignante tombe enceinte, si quelqu'un a un accident ou n'importe quelle raison, là, on est pris un peu à la gorge. Donc, on a commencé à recruter de plus en plus d'enseignants, de personnes qui ont envie de venir enseigner, qui ont différents bagages. Il y en a qui ont des bacs disciplinaires. Donc, on n'est pas trop au courant encore du profil de ces personnes-là. D'ailleurs, il y a un des articles qui s'intéresse à cette question-là dans le numéro thématique. Donc, ça, c'est une des solutions, je dirais, dans l'urgence qui a été prise. Or, bien entendu, là, c'est bien beau d'amener des personnes qui ont envie d'enseigner, qui ont envie d'être là dans nos écoles, mais il y a plusieurs personnes qui ont des préoccupations sur l'impact que ça peut avoir sur les apprentissages, etc.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
À moyen terme.
Oui, c'est ce que j'allais dire, Madame Sirois. Excusez-moi de vous couper, mais ce que j'allais dire, c'est que je veux pas vous mettre les doigts dans la trappe à souris, là, c'est pas l'idée, là, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de se créer davantage de problèmes en accouchant d'une solution comme celle-là que de régler le problème? Finalement?
Tout à fait. Ben, j'y venais. En fait, il faut voir ça de deux côtés. Premièrement, l'aspect positif, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ont envie d'enseigner. Donc là, moi, je considère que c'est positif.
Oui.
Toutefois, on ne se le cachera pas, là. Oui, on est en train de créer un problème. Il faut qu'on trouve des solutions à ce problème-là parce qu'on ne peut pas avoir des dizaines de milliers de personnels non légalement, non qualifiés, qui n'ont aucune formation en pédagogie dans nos écoles. Donc, ces personnes-là, et premièrement, il faut les former. Il faut leur offrir des voies de formation. Et il faut les aider à s'insérer dans la profession. Habituellement, le parcours typique d'un enseignant, c'est je me forme pendant 4 ans, puis après ça, je m'insère dans la profession. Et l'insertion, c'est tellement difficile que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a autour de 20% qui quitteraient dans les 5 premières années. Et là, on demande à des personnes qui n'ont pas fait de stage, qui ne sont pas formées, de débuter directement leur insertion. Donc, nous, on pense que probablement, premièrement, il y en a beaucoup qui décrochent. Et deuxièmement, il est urgent, selon moi, d'offrir de la formation à ces enseignants-là pour s'assurer que leur présence n'a pas d'impact là sur les apprentissages des élèves, etc. Et puis, même au-delà des élèves sur qui ça peut avoir des impacts négatifs, ça a aussi des impacts sur les autres enseignants. Dans le sens où, si moi, je suis enseignant, que dans la classe à côté de la mienne, il y a un enseignant plein de bonne volonté, qui n'a aucune formation, qui a de la difficulté avec son groupe, et c'est sûr que je vais être obligée d'aller l'aider. Là. Je ne peux pas laisser la situation dégénérer. Donc, ça fait une pression, je dirais, sur toute l'équipe au sein des écoles.
Ouais, Madame Sirois, c'est un problème que quand on le regarde dans l'actualité, quand on en entend parler, à vue de nez, c'est un gros problème, mais vous énoncez en fait certaines problématiques qui viennent avec justement cette pénurie d'enseignants.
C'est pire qu'on pensait. Là.
C'est peut-être pire qu'on pensait. Est-ce qu'on peut dire ça?
Moi, je pense que c'est grave ce qui se passe actuellement. Les gens qui sont responsables de recruter, là, ils ne font presque que ça. Là. C'est vraiment tout le monde est à bout de souffle, je vous dirais dans le réseau. Les enseignants aussi vivent les impacts de cette pénurie-là. Ça aussi, il faut le comprendre. S'il n'y a pas de suppléant, puis que moi, aujourd'hui, là, mon enfant est malade, qu'est-ce que je fais?
Wow.
Je sais que par exemple, il n'y aura peut-être pas personne pour me remplacer ou que ça va tomber sur mon collègue qui va être obligé. Parce que ce qu'on a en santé, là, au Québec, on appelle ça le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, ben on commence à avoir une espèce de mécanisme semblant qui met en place en éducation où finalement ton collègue, par exemple, pendant que moi mes élèves sont en classe de musique, je vais être obligée d'aller remplacer dans l'autre classe parce qu'il n'y a personne.
Madame Geneviève Sirois, professeure en administration scolaire à l'Université TELUC, donc elle a travaillé sur ce numéro de la revue scientifique Éducation et francophonie de l'Association canadienne d'éducation de langue française qui parle de pénurie d'enseignants. Si les gens veulent se renseigner, j'imagine que sur le site de la CELF, il doit y avoir des informations là-dessus, Madame Sirois?
Tout à fait, les articles vont être disponibles sur le site. Et bon, comme je me permets d'ajouter, comme votre auditoire est un peu partout dans la francophonie canadienne, qu'il y a aussi, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la thématique au-delà du numéro qu'on vient de publier, là, il y a l'Association canadienne des professionnels de l'immersion, une organisation dont l'acronyme est l'ACPI, qui a publié tout un rapport où ils font état justement de la pénurie dans le domaine plus spécifique de l'immersion française et de l'enseignement en français langue seconde. Ils ont d'ailleurs démontré que dans certains cas, dans les milieux minoritaires, ça va jusqu'à on est obligé de fermer des classes parce qu'on n'a pas d'enseignants. Donc la pénurie, elle est vraiment criante dans ces milieux-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être intéresser votre auditoire. Donc, je les invite à aller sur le site Internet de cette association, l'ACPI, pour voir le rapport qu'ils ont produit. Là, ils ont réalisé toute une enquête sur le sujet.
Madame Geneviève Sirois, merci beaucoup pour cette entrevue très éclairante sur la pénurie d'enseignants qui sévit à travers le monde, mais plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse, dans la francophonie.
Merci beaucoup à vous.
Cette émission peut contenir des infos.
Mesdames, messieurs, bienvenue au quiz des connaissances très, très, très générales.
OK. On va dans...
Notre concurrent cette semaine.
Mm-hmm.
Monsieur Simon Vogue.
Lui-même, en sa personne.
T'es-tu prêt, mon Simon?
Je suis prêt. J'ai absolument rien su, ni vu, ni lu, ni entendu quoi que ce soit à propos de tes questions.
Je te dis, c'est très général.
OK. Vas-y.
Alors, on va tirer partout.
Dans toutes les directions.
Dans toutes les directions.
OK.
Il y a juste 8 questions. OK? Bon. Le supplice sera pas si pire que ça.
Ouais.
La première. Lequel de ces ingrédients particuliers est utilisé pour donner une couleur rouge à de nombreux produits alimentaires et cosmétiques? Mm-hmm. Du sang de coccinelle, du venin, de l'acide produit par des insectes, l'écorce de certains arbres.
Il y a probablement l'acide provenant de certains insectes.
Ta-da! Vous l'avez, monsieur Faure.
Oui.
Bravo. Ah. Le camin est un colorant extrait de la cochenille. Petit insecte qui produit un acide coloré comme moyen de défense.
C'est bon de savoir qu'on mange des bonbons avec...
Oui. Ce composé chimique donne sa couleur à beaucoup de produits modernes, mon cher. Question numéro 2.
Oui, vas-y.
Toutes les directions. À quelle entreprise appartient l'usine de fabrication de véhicules avec la plus grande superficie au monde? Volkswagen, Toyota, Tesla, Bugatti.
Je dirais, ben, Bugatti au volume, je dirais sans doute Volkswagen.
Non. Bravo!
Oui, hein?
Oui.
Ah, tu vois?
Hey, 2-6-2.
C'est bon, hein?
Ben, je suis très impressionné. Je t'assure, tu l'aurais pas.
Ben, je suis meilleur qu'avec les animaux déjà sur le prix, là.
L'usine de Volkswagen à Wolfsburg en Allemagne occupe une superficie de plus de 6,5 millions de mètres carrés.
Wow!
Méchante usine. Qu'est-ce que l'ambre gris, cette matière rare utilisée pour fabriquer des parfums? Une résine fossilisée extraite de certains conifères? Les sécrétions solidifiées d'un mammifère marin? Un minerai extrait des fonds marins ou des phéromones liquides?
C'est le fossile marin, là, très probablement.
Hein? Les sécrétions d'un...
C'est pas l'affaire de qui était dans les fonds marins, là, je sais pas. Vas-y donc, réponse B. C'est quoi l'appel, le B?
Ah, le B, c'est les sécrétions solidifiées d'un mammifère marin.
D'un mammifère marin, ouais, c'est ça, c'est ça. Les sécrétions, non?
C'est pas mal ça, oui.
C'est vrai?
Les cachalots produisent cette concrétion intestinale odorante.
Oui.
Qui permet de rehausser les effluves de certains parfums. Je vois pas comment, là, mais en tout cas, l'ambre gris vaut une petite fortune, environ 40 000 $ le kilo. Le kilo de...
Ouais, ben c'est ça, d'ambre gris ou de...
D'ambre gris, oui.
C'est ça.
D'ambre gris.
C'est spécial quand même quand tu y penses, hein?
Ben oui, c'est ça.
Ben des affaires que je suis sûr que les gens auraient préféré ne pas entendre parler là aujourd'hui, ouais. Là.
Ben je pensais que c'était il y a pas du maquillage qui est fait avec de la graisse de baleine ou un affaire de même.
Oui aussi.
Ouais.
Tu sais que il y a à l'époque où j'habitais la rive sud de Québec, il y a une usine d'écarissage qui eux autres ramassaient des carcasses d'animaux installées dans ce coin-là parce que il y a beaucoup de producteurs soit bovins ou porcins qui sont là dans le coin là sur la rive sud de Québec pour pas le nommer, région de Chaudière-Appalaches. Puis toutes les carcasses d'animaux arrivent là et tout ça.
Ça a du sens, c'est bon. Hein?
Oh, ça sent, c'est extraordinaire. Et ça se destine dans bien des cas, enfin pas juste pour ça, mais beaucoup dans le maquillage.
Oui, hein?
Ouais. c'est pas très appétissant.
Non, effectivement. En moyenne, combien de téléphones ont été fabriqués par Apple, ta compagnie préférée, chaque jour en 2022? Moins de 100 000, 300 000, 600 000, plus d'un million.
Je dirais dans l'ordre d'à peu près 600 000.
OK, il est bien plate, ce quiz-là.
Quoi, je suis dedans, quoi?
Oui.
Pour vrai?
Oui. Apple a fixé son objectif de production à 220 millions d'unités pour l'année. Donc, environ 600 000 iPhones par jour. La plus grande usine de fabrication d'iPhone est située à Zhengzhou, en Chine. Elle emploie 200 000 personnes.
Wow! Hey, c'est une ville, là, je veux dire, carrément. Les trois autres, je savais, j'ai pas lu, hein, mesdames et messieurs, sérieusement,
non,
j'ai pas lu
pire.
Ces questions. En tout cas, la seule que j'ai pris vraiment un guess, c'est Apple, jusqu'à présent.
OK.
Pas dit que je vais continuer comme ça. À date, j'ai 50%?
Non.
Quatre bonnes réponses? 100%, c'est-à-dire?
T'as 100%.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le quiz, là, on est rendu à mi-chemin.
T'as 50%.
OK, fait que j'ai au moins 50%,
ouais,
là.
Tu passes pas encore, là, mais t'as 50%.
OK.
OK, 50 plus 1. Hein, on s'entend?
Ouais, OK.
Où est situé le plus grand barrage hydroélectrique au monde?
En Chine.
Canada. États-Unis. Brésil. Ou la Chine?
Là, par exemple, t'as rajouté les États-Unis, j'hésite. J'hésite un peu. Je sais qu'il y en a un très gros aux États-Unis. Mais je vais continuer avec la Chine. T'sais, eux autres, ils aiment ça, le gigantisme.
T'es plate. Le barrage hydroélectrique des Trois Gorges, situé dans la province de Hubei, en Chine, est le plus grand au monde. Il a été construit à l'aide de 27 millions de mètres cubes de béton. Hey, ça en fait du ciment, ça, là.
Wow!
Ouais. Celle-là, par contre, je pense que je vais peut-être avoir. Quelle est la plus grande entreprise de fabrication, selon ses revenus, au Canada? Bombardier, Saputo, McCain Food ou George Weston?
Je pense que ça doit être George Weston. Parce qu'ils sont propriétaires d'une grande chaîne de supermarchés. Non, mais c'est correct.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein?
Ben oui, parce que c'est eux autres qui ont la blase.
Oui.
Y a un chiffre d'affaires d'un peu plus de 40 milliards par année, parce qu'ils ont des pharmacies aussi, je pense.
Oui,
c'est Shoppers.
Shoppers,
c'est eux autres. Ils ont de l'immobilier, un paquet d'affaires, en tout cas. Je savais pas tout ça, là, mais.
Un gros portefeuille.
Ouais. C'est ça.
C'est un quoi, c'est? Non, mais je sais pas.
Quel est, OK. Quelle matière est utilisée pour fabriquer les sabots de freinage du métro de Montréal? Tu as peut-être vu à un moment donné. Un alliage de cuivre et d'acier, de l'aluminium, du bois, du caoutchouc.
Je dirais du bois. Parce que c'est tellement... c'est middle of nowhere dans tout ça, François.
Mais c'est pour ça que j'avais rajouté caoutchouc.
Ah, OK. Mais du caoutchouc, je sais pas comment tu peux freiner avec ça.
Non, je sais pas.
Mais le bois, non.
Moing. C'est effectivement du bois. Sont faites en merisier. Et la Société de transport de Montréal utilise de l'huile d'arachide pour assurer leur entretien.
OK, pour pas que
mais
ça...
c'est en bois.
C'est en bois, ouais.
J'ai fait un petit peu le saut quand j'ai vu ça.
Mais quand tu y penses, c'est astucieux parce que le bois, c'est quand même une matière qui est quand même très résistante, là.
Oui. Ah ben oui.
Tu sais, on peut faire des gratte-ciels en bois, là.
Ah oui, du merisier, c'est un bois dur, là.
Ouais.
C'est pas un bois mou, là.
Fait que, puis ça doit offrir l'avantage aussi d'être relativement facilement remplacé, j'imagine. Je sais pas.
Ouais, probablement.
Ouais, en tout cas.
En 2022, dernière question, quel fabricant de vêtements a promis de donner tous ses profits pour lutter contre les changements climatiques? Arc'teryx?
Non.
Tentry? Patagonia? Ou Columbia?
J'hésite entre deux, mais je veux dire Columbia. Je pense que c'est leur genre. Peut-être que je me
suis... Es-tu certain? OK, t'es hésitant entre quoi?
Patagonia. J'ai Patagonia ou Columbia.
Le propriétaire de Patagonia, Yvon Chouinard, a dit en septembre qu'il se retirait de la gestion de son entreprise et que cette dernière venait d'être transférée à une fiducie spécialisée pour que tous les bénéfices...
Tout?
Tous les bénéfices servent dorénavant à financer la lutte contre les changements climatiques. Alors, si ça vous tente de vous acheter un manteau, Patagonia. Parce que tout le cash va pour
la préservation
des changements climatiques.
Préservation de l'environnement, oui, de façon large, là, empêcher les changements climatiques.
Premièrement, j'ai été très surpris qu'une grosse compagnie comme ça, quelqu'un arriverait et qui donnerait tous les profits. Là.
Ouais.
Tu sais, tu dis, OK, on va donner 10 % des ventes ou 15 % des ventes, mais de là à dire tous les profits vont aller à un organisme pour... ça. Wow!
Ben, bravo!
Monsieur Chouinard, je vous lève mon pouce.
Mais quoi, ça devient à toute fin utile une fondation dans un sens?
Oui. Ben oui, parce que tous les profits s'en vont là, puis après ça, c'est distribué pour...
Hey, c'est assez spécial.
Oui.
Nous resterons en principe 3 minutes. On n'a pas nécessairement le temps de se lancer dans mon dernier sujet.
Qui était?
Je vous le dis pas.
Ah, OK.
On ira là une autre fois. Oui. Mais ce que je veux qu'on fasse, par exemple, c'est qu'avant de clore, je veux que nous rappelions l'adresse de courrier électronique. Ça t'entend?
Oui, absolument. Je vais vous donner ça.
Tu me chargeras pas plus cher, là.
Regarde.
On dealera ça tantôt.
Je laisserai un 5 sur le bord du comptoir. Là,
OK. 5 piastres? C'est rendu 5 piastres?
Ben là.
C'était pas un Ounis?
Non.
OK, 5 piastres.
Hey, attends une minute, là. Hey, les taux d'inflation, tout ça.
Ah, c'est ça,
là.
L'enfer. OK,
ben,
oui.
OK, il y a un Ounis, oui, peut-être il y a 4 ans, mais là, plus maintenant. Là.
OK.
Là, c'est rendu 5 piastres, là. Minimum 5 piastres que ça coûte. pcdi@radiorfa.com. On vous invite à nous écrire, vous avez des commentaires, n'importe quoi. N'importe quoi que vous voulez nous dire, gênez-vous pas, ça va nous faire extrêmement plaisir de vous lire.
Et en conclusion, l'émission peut contenir des infos, n'a pas à proprement parler de page Facebook ou de compte Twitter ou de trucs du genre, mais quand même, si vous voulez rester au courant de l'émission à proprement parler et des activités de façon plus générale de l'Arc du Canada, l'Alliance des radios communautaires du Canada et nos membres,
nos radios.
Nous autres, on a une page Facebook, par exemple, l'organisme.
Oh. Ah
ouais.
Oui?
Ouais, allez nous voir sur Facebook, Alliance des radios communautaires du Canada ou ARC du Canada, ARC du Canada, vous allez nous trouver là.
Et c'est pas l'Agence de revenus du Canada?
Non, on ne toque pas après le monde, nous autres. Non, c'est ça. C'est le monde qui nous court après.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'affaire. Alors, allez sur Facebook puis abonnez-vous à la page de l'ARC du Canada. Des fois, on donne des petites primeurs sur ce qui s'en vient, des trucs du genre.
Ouais.
Même des fois.
Intéressant de même. Hein?
Ouais, on dit des fois sur la page Facebook.
Il est bon, ce gars-là, hein. Qui...
Le gars qui gère ça.
Ouais, qui gère ça, là.
Doit être pas pire.
Ouais.
Doit être pas pire.
Il a un petit peu de talent, hein.
En tout cas, on va s'arrêter.
Oui.
OK, puis on met un break sur l'émission pour cette semaine, puis on s'en reprend la semaine prochaine.
Absolument.
Et la semaine prochaine, nous parlerons, entre autres choses, d'autisme.
Ah oui, ça va être intéressant.
Parce que le mois d'avril s'en vient, alors on va parler d'autisme la semaine prochaine. Salut!